chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Je laisse à tes pieds.
Comme l'apôtre Paul avait désiré être jugé par César à Rome, eh bien, nous lirons une partie de ce voyage qui va le mener à Rome. Au chapitre 27 d'Actes, dès le verset 13. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Eurachion, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné, sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire. Ils ont mis des câbles pour entourer le navire pour pas qu'il se partage. Et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus de la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô homme, il fallait m'écouter, ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. » La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent à nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. » Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre. Mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire s'ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer, et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails. Puis ils mirent au vent la voile d'Artimon et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue de terre où ils firent échouer le navire, et la proue s'étant engagée resta immobile, tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappât à la nage. Mais le centenier, qui voulait sauver Paul, les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches ou des débris du navire. Et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs.
Eh bien, merci de m'accueillir d'abord aujourd'hui ici dans ces lieux que je découvre parce que j'ai eu l'occasion de fréquenter quelquefois le groupe de jeunes de l'église évangélique de Merin il y a une trentaine d'années, mais c'était encore des petits baraquements. Et il n'y avait pas encore toutes ces constructions derrière. Alors, quand Maurice Salib m'a demandé de prêcher aujourd'hui, il m'a vendu le texte, entre guillemets, avec le commentaire suivant. Ah, tu trouveras facilement quelque chose à dire, c'est le dernier naufrage de Paul, bon, t'as qu'à penser à tes réfugiés, à leur naufrage, tu verras. Je me suis dit, bon, j'ai été un peu gagnée par son enthousiasme, j'ai fait un peu le parallèle avec la tempête apaisée, Jésus-Pierre, je me suis dit, bon, on n'avait qu'à prêcher la confiance, ça va aller tout seul. Et c'était pas si facile dans le fond parce que c'est un texte effectivement assez difficile. Et puis bon, à une lecture un peu plus attentive, on a presque l'impression que c'est un traité de navigation en Méditerranée au premier siècle de l'ère chrétienne. Et puis là non plus, si j'ai pas eu l'enthousiasme de Maurice, je n'ai pas non plus eu ses compétences maritimes. Donc je vais pas me lancer dans des explications sur comment on naviguait à cette époque. Vous débrouillerez si vous voulez en demandant à Maurice comment on navigue puisqu'il a un bateau. Alors, difficile de comprendre la portée de ce texte sans avoir une vision plus large de ce que Paul est en train de vivre. Hein, comme si ce texte, c'est comme un peu si on zoomait sur un tableau et qu'on voit qu'une petite partie et que pour comprendre l'ensemble du tableau, il faut avoir une vision plus globale. Alors, après plusieurs voyages missionnaires couronnés de succès, bien qu'il rencontre un certain nombre d'oppositions, on apprend au chapitre 19 du livre des Actes que Paul souhaite retourner à Jérusalem et aller ensuite à Rome. Alors, il se hâte d'arriver à Jérusalem pour la Pentecôte, mais pourtant, il sent bien, il pressent que d'aller à Jérusalem le met en danger. Il le dit d'ailleurs aux anciens d'Éphèse à qui il s'adresse dans un discours, il leur dit « Mais vous ne me reverrez plus ». Alors, pourquoi cet homme qui pressent qu'il se met en danger veut absolument aller à Jérusalem? Alors que plusieurs personnes, poussées par l'esprit, nous dit le texte des Actes, l'avertissent et lui recommandent de ne pas se rendre à Jérusalem. Alors certes, on apprend dans le texte qu'il doit remettre une collecte à la communauté, mais bon, quelqu'un d'autre aurait pu le faire à sa place. Il parle aussi de sa vocation à rendre témoignage de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Mais Jérusalem, il y a déjà une communauté chrétienne, ils ont entre guillemets déjà été évangélisés, il aurait pu aller ailleurs, là où personne n'a encore entendu parler de l'évangile. Là, je me suis souvenu d'un article que j'ai lu cette année d'un théologien allemand, Gert Theissen, qui m'a donné une piste. Alors, ce théologien fait le lien entre les différents événements de la vie de Paul et sa théologie. Il parle du postulat que l'épître qu'il écrit aux Romains a été écrite justement pendant cette montée de Paul vers Jérusalem, dans ce moment où ils se sont en danger, et que la théologie qu'il développe dans l'épître de Paul correspond à différents moments de sa vie. Que dans le fond, cet épître de Paul serait une sorte de testament, en tout cas, des choses qui lui paraissent importantes à ce moment-là. Alors, je vais vous faire un bref aperçu de ce qu'il dit. Les premiers chapitres 1 à 3, grosso modo, de l'épître aux Romains, Paul développe le salut selon les œuvres qui correspondrait au Paul d'avant sa conversion. Les chapitres 3 et 5 correspondraient au Paul du chemin de Damas, c'est-à-dire au Paul qui se convertit et où le salut relève de la foi. Ensuite, on parle du salut comme transformation qui correspondrait au Paul qui fait ses grands voyages missionnaires et qui voit aussi les transformations, évidemment, de ce que produit la parole de l'Évangile auprès des gens à qui l'on parle, qu'il rencontre. Et puis, la quatrième partie serait une partie qui correspond au Paul qui monte vers Jérusalem. C'est le salut fondé sur l'élection de Dieu. Alors, essayons de nous mettre à la place de ce Paul qui monte vers Jérusalem. Paul s'est toujours considéré comme juif. Et de son point de vue, Jésus est le Messie attendu par les Juifs. Et progressivement, c'est aussi le Messie, et ça c'est sa conviction profonde, le Messie attendu pour toute l'humanité. On peut imaginer que Paul devait souffrir du fait que le peuple d'Israël ne reconnaisse pas cette bonne nouvelle, celle qui l'a transformée. Alors un peu comme si tout d'un coup, votre famille souffrait d'une maladie, que vous avez le médicament, et puis que votre famille refuse de prendre ce médicament et que vous commencez à imaginer que votre famille va continuer à être malade ou au pire, selon la maladie, va mourir. Et que le fait que vous preniez le médicament et que votre famille la refuse, vous êtes vécu comme un traître. Donc on peut imaginer que ça devait être très douloureux pour Paul d'être dans cette situation. Et c'est comme ça que Paul en vient penser petit à petit que le salut, dans le fond, il appartient à Dieu, qu'il dépend ni de notre adhésion, ni de ce que nous faisons, mais que d'abord, il appartient à Dieu. Et que les bonnes œuvres, comme selon ces termes, ou la foi, deviennent alors la conséquence, je dirais, de cette élection de Dieu et pas la condition. Alors cette pensée, on peut imaginer, doit réconforter Paul face à ce mystère pour lui que ceux qu'il aime ou ceux qui appartiennent de son peuple ne reconnaissent pas Dieu. Et c'est ces mêmes pensées théologiques qui devaient probablement l'habiter au moment du naufrage. Alors, j'ai juste oublié de vous parler quand même de ce qui se passe à Jérusalem. Donc, on voit Paul qui monte vers Jérusalem, qui écrit probablement l'épître aux Romains à ce moment-là, qui arrive à Jérusalem, et là, il arrive avec un certain espoir. Malheureusement, un certain nombre de Juifs vont sérieusement le malmener. Et même si Paul essaye de montrer par tous les moyens qu'il est un bon Juif, qu'il respecte aussi un certain nombre de traditions juives, mais rien n'y fait. Et donc, il est finalement les Juifs l'amènent devant les autorités romaines, et c'est là où il demande à comparaître devant César. Il essaye aussi parce que ça, on le voit dans l'épître aux Romains au chapitre 13, aussi de prouver que dans le fond, le message qu'il amène n'est pas du tout un message qui veut remettre en cause l'autorité romaine, par exemple. Hein. Et c'est là où il développera un certain nombre de choses sur le respect dû aux autorités, etc. Donc, son message, ce n'est pas un message, a priori, d'abord subversif vis-à-vis, que ce soit des autorités juives ou des autorités romaines. Son message est d'abord une bonne nouvelle pour chacun. Et alors, sur ce, ben, il va être transféré à Rome. Hein, et puis, au cours de ce voyage maritime, l'hiver arrive avec des mauvaises conditions de navigation. Alors, Paul met en garde l'équipage et le centurion qui les accompagne. Mais ceux-ci décident quand même de repartir, alors pas pour faire la grande traversée, mais juste pour aller s'abriter dans un autre port qui paraissait plus sûr et plus confortable pour l'hiver. Moi, j'ai pas l'impression que dans le texte, Paul est vraiment fâché qu'on l'ait pas écouté. Il leur rappelle juste que, oui, il leur avait dit, mais voilà. Bah, d'autant plus qu'il est finalement assez mal placé pour être fâché, parce que lui-même, alors que ses amis l'ont averti qu'il fallait pas qu'il aille à Jérusalem et qu'il aurait des ennuis, il les a pas vraiment écoutés et il y est allé, alors que ses amis paraissaient quand même aussi poussés par l'esprit. Hein, donc il est assez mal placé pour faire la leçon. Mais au milieu de la tempête, il reçoit un message. Il reçoit un songe. N'aie pas peur, tu dois comparaître devant César et Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi. Alors, progressivement, tous ces événements prennent un sens. Le besoin pressant de Paul d'aller à Jérusalem et de revenir dans cette ville sainte, le rejet des Juifs de Jérusalem, la tempête, tous ces événements vont permettre à Paul de rencontrer César et de découvrir aussi Malte, parce que j'ai Laurent Marty qui m'a envoyé sa prédication où il a prêché dessus en juillet, et j'ai appris en lisant sa prédication que Malte est une petite île mais qui contient 400 églises. Donc, on ne sait pas si ça date de l'époque de Paul, mais en tout cas, c'est un lieu qui est fortement chrétien, si on peut dire. Alors, me direz-vous quel lien avec notre vie d'aujourd'hui ? Alors, j'ai associé ce que j'ai appris de Paul, ce que je viens de vous dire, aussi avec une lecture d'une autre sorte de testament, celui d'un père, du père Paolo Dall'Oglio, excusez-moi mon accent italien, enfin mon manque d'accent italien, qui lui s'est retrouvé dans la violente tempête de la guerre civile actuellement en Syrie. Lui qui est un père qui a été la cheville ouvrière d'un monastère dans le désert en Syrie, monastère qui s'est notamment donné la vocation de promouvoir le dialogue islamo-chrétien. Et alors dans ce livre, il raconte sa vie, son engagement, sa foi. Il interpelle le lecteur pour qu'à son tour, il ne reste pas indifférent à la souffrance des peuples et en particulier à celle des Syriens. Mais il évoque aussi la perspective de sa mort possible, comme Paul y songe aussi. Alors j'ai appris en rentrant de vacances, fin juillet, qu'il avait été kidnappé en voulant négocier la libération d'otages retenus par une des factions islamistes qui se trouve en Syrie. Et depuis, pas de nouvelles. J'ai pas pu m'empêcher d'avoir une petite pensée aussi pour Claude Heiniger, puisque je trouve que son livre a aussi quelque chose de cet ordre-là. Hein, la perspective de quelque chose de sa mort prochaine nous invite à revisiter un certain nombre de choses. Dans ces périodes de grands troubles, de changements, où nous sentons très bien nos limites, ça peut être la mort, mais ça peut être d'autres choses, hein, la maladie, ou des changements qui font que, imposés ou choisis, qui font que les choses vont être différentes. Et dans ces moments-là, on a besoin de faire le point et puis de réaffirmer ce qui fait la colonne vertébrale de notre vie et de ce qui peut perdurer au-delà de ce moment difficile et de crise. Alors, dans ces moments, que devient la confiance ? Alors, c'est certainement pas un optimisme béat. On se dit, ouais, tout va bien aller, hein, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est pas non plus un déni de la réalité. Je pense que la confiance, à ce moment-là, elle ressemble probablement plus au courage de continuer sa route en s'appuyant sur ce qui nous fait vivre. En l'occurrence, pour l'apôtre Paul, ce qu'il fait vivre à ce moment-là, c'est que Dieu l'appelle à Rome et que le salut de tous les êtres humains passe par l'élection divine. Et puis pour le père Dal Oglio, dont je vous parlais tout à l'heure, je pense que ce qu'il fait vivre au moment où il écrit son livre et dans ce moment difficile, c'est sa conviction que Dieu l'appelle à côté du peuple syrien. Alors, la confiance, c'est pas qu'on sait ce qui va se passer. On ne sait pas non plus si on va vivre ou si on va mourir. On ne sait pas non plus si le malheur va disparaître. Mais cette confiance nous aide à trouver des ressources qui souvent peuvent faire la différence. Mais elle ne nous protège pas du malheur. Alors cette fois-ci, Paul a été sauvé avec toutes les personnes du bateau. Même si plus tard, il mourra décapité. On ne peut pas dire qu'il avait plus de foi pendant la tempête que pendant ses années de captivité à Rome. Bon, je pense que pour moi qui travaille actuellement à l'aumônerie genevoise œcuménique auprès des requérants d'asile et qui entend toutes sortes d'histoires et qui n'ait pas pu m'empêcher aussi d'associer ce naufrage de Paul et cette tempête à toutes les histoires que j'entends de ces personnes, de ces nombreux émigrés africains qui traversent d'abord le désert et ensuite la Méditerranée dans des conditions extrêmement difficiles et très précaires, dont un certain nombre de gens meurent noyés parce qu'elles fuient soit une dictature, soit la pauvreté, soit la guerre. On ne peut pas dire que ces gens-là, que ceux qui meurent sont moins croyants que ceux qui s'en sortent. Même si un certain nombre de personnes qui s'en sortent, et notamment je pense à l'exemple d'une jeune femme érythréenne que j'accompagne et qui ne parle pas le français, donc on se parle comme on peut, hein, par geste, et qui... chaque fois qu'il lui arrive quelque chose de positif dans sa vie, sa manière de me signifier, elle lève le bras au ciel, elle regarde le ciel et elle me dit, par ce geste, ça vient de Dieu. Hein. Et évidemment que cette personne-là qui traverse ça, et sa foi est sincère, elle le vit vraiment comme une aide et une protection de Dieu. Mais on ne peut pas dire non plus que ceux qui meurent ne sont pas protégés par Dieu. Alors quoi la confiance ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on fait de ce sauvetage de Paul ? Bien sûr, alors au travers de son songe, il reçoit la confirmation de sa mission. Et puis les passagers s'en sortent. Sain et sauf, et ça aussi probablement que pour Paul, ça a dû être une confirmation que sa mission est légitime. Alors dans ces périodes de bouleversement, hein, que j'ai déjà évoquées, alors où on est invité à revisiter les fondements de son existence, de sa foi, à discerner les signes, hein, parce que ça je pense que c'était un signe important pour Paul, qui nous permettent de prendre la direction. Il y a parfois aussi encore... ce qui peut confirmer des signes, c'est aussi la réaction des autres. Hein. Là, en l'occurrence, on voit bien dans la suite du récit qu'on vient d'entendre que l'ensemble des navigateurs qui sont avec Paul reconnaissent à Paul une certaine autorité, en tout cas un certain discernement, puisqu'ils lui font confiance et obéissent à ce qu'il lui propose, à ce qu'il propose. Donc, revisiter sa vie, ses fondements, discerner les signes, mais le reste ne nous appartient pas. Je crois que la finalité de la vie de chacun, la vie, la mort, ce qui lui arrive, c'est des choses qui ne nous appartiennent pas et que nous ne pouvons pas juger. Concernant notre propre vie, éventuellement, nous pouvons évidemment dire que nous avons vu la trace de Dieu dans tel ou tel événement. Évidemment et heureusement, mais nous ne pouvons pas juger de la finalité de la vie de l'autre et de l'ensemble d'un peuple. Alors, me direz-vous, puisque finalement tout est dans les mains de Dieu, on peut se laver les mains, hein, on glisse légèrement sur la ponte savonneuse, qui serait d'oublier que, par exemple, les Syriens souffrent d'un régime despotique et de lutte de pouvoir, que ces immigrés qui fuient souffrent de la pauvreté aussi, de la dictature, et que, dans le fond, puisque c'est Dieu qui s'en occupe, nous, on n'a plus rien à faire. Alors, je crois qu'il ne s'agit vraiment pas de faire l'impasse sur notre mission de secours auprès de la veuve et de l'orphelin, auprès de l'étranger, auprès de tous ceux qui souffrent, mais simplement, et c'est ce en quoi ce texte m'a touchée, le salut ne dépend pas de nos œuvres, mais la finalité de la vie de chacun et de chacune ne dépend pas de nous, mais de Dieu, même si c'est une pensée pas toujours facile à intégrer. Alors, dans ces moments de tempête, dans ces moments difficiles, nous ne pouvons que nous tourner vers ce Dieu auquel nous appartenons, pour reprendre l'expression de Paul, et puis ceci jour après jour. Voilà, le message est simple, en tout cas à dire, et peut-être un peu plus difficile à vivre tous les jours, mais je pense que c'est ce à quoi nous invite ce texte. Amen.